Radio Kapi.
Le journal Blaise Chindani.
Bon après-midi à tous et bienvenue à cette grande édition du journal parlé dont voici d'abord les titres. La session parlementaire de septembre s'est ouverte ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Selon le président de l'Assemblée nationale, bien que cette session soit essentiellement budgétaire, la priorité sera donnée à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Plusieurs autres défis sont aussi à relever, affirme Vital Kamerhe. Le commandement de la force navale de FARDC à Kasseni et Tchomia en Ituri dit avoir constaté une complicité entre certains habitants de ces deux entités et les miliciens de la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga, ce qui, selon lui, met en péril les efforts de paix dans cette région. Yves Bassambi, vice-président du conseil communal de Saint-Josse en Belgique, est notre invité. Il revient sur la commémoration du premier anniversaire de l'inauguration d'une stèle en hommage aux anciens combattants congolais de la force publique qui ont combattu aux côtés de la Belgique durant les deux guerres mondiales. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bon après-midi à tous. Rentrée parlementaire, c'est lundi 15 septembre. Dans leur discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat affirment que cette session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances 2026 mettra la priorité sur la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Plus de précisions avec notre reporter grâce à Mzatima Sanzi depuis le Palais du Peuple.
Selon le président de l'Assemblée nationale, outre la situation sécuritaire dans l'est du pays, plusieurs autres défis sont à relever. C'est notamment l'amélioration des services sociaux de base, entre autres l'eau et l'électricité, ainsi que le secteur de l'éducation. Vital Kamerhe parle également de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures dans tous les domaines de la vie de la population. Au regard de ces défis, il appelle les députés au calme et à l'unité pour répondre aux attentes du peuple. De son côté, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, est aussi revenu sur la crise sécuritaire qui secoue le pays en assurant l'implication du Parlement pour une issue favorable. Il cite les violences des groupes armés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, l'occupation d'une partie du pays par la rébellion de l'AFC M23, l'insécurité due au phénomène Mobondo dans les provinces de Maïndombe, Kwango et dans la commune rurale de Maluku, ainsi que la montée de la criminalité dans les grandes villes du pays. Samalukonde déplore également les embouteillages à Kinshasa et dans d'autres villes affectant la santé des habitants. D'où il rassure de la considération de toutes ces questions par le Parlement afin de trouver des solutions pour le bien de la population. Depuis le Palais du Peuple, grâce à Mzati, Radio Kapi.
En marge de cette rentrée parlementaire, les acteurs de la société civile du Nord Kivu lancent un appel aux élus nationaux de cette province à défendre la cause des populations de cette partie du pays. Certes, la session de septembre est budgétaire, mais il n'est pas exclu pour les sénateurs et députés nationaux de relever les préoccupations de leurs électeurs, estiment ces acteurs de la société civile. On écoute l'un d'eux, Christian Kalamon, président de la société civile sous coordination de la commune de Karisimbi en ville de Goma.
L'attente de la population est que les députés puissent stabiliser des problèmes sécuritaires qui se passent à l'est de la RDC, dans le nord et le sud Kivu. Vous savez ce que les ADF sont en train de faire au nord Kivu. Ils ont tué la semaine passée. La nuit d'hier à aujourd'hui, ils ont tué encore et sans dire beaucoup de choses. Vous allez voir nos députés de l'est. En tout cas, on dirait tout va bien. Ils sont aussi derrière les pétitions. Ils sont derrière la prorogation de l'état de siège. D'ailleurs, moi, je me demande, nos députés là, qu'est-ce qui vous motive de signer la prorogation de l'état de siège? Avant l'état de siège, nous avions nos territoires, nous avions nos provinces, mais voilà là où nous sommes aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle moi je demande à nos députés de Goma de quitter leur silence. Pourquoi ils gardent leur silence? Ils sont que dans des distractions, ils sont en train de demander qu'on puisse augmenter des salaires et quoi. Il faut quoi réellement? Pourquoi leur silence? Nous leur demandons en tout cas de s'imposer pour tabler sur les problèmes sécuritaires et que la population puisse avoir les résultats de ce qu'ils ont fait. Nous ne voulons pas qu'en 2027 ou 2028 ils commencent à venir à dire, voilà moi. Non. Nous voulons palper la réalité de ce qu'il faut. En tout cas, ils gardent trop de silence et on se demande, ils ont changé ou quoi? Qu'est-ce qui se trouve à Kinshasa là-bas?
Des habitants de Tchomia et Kasseni, deux entités au bord du lac Albert, se font tuer elles-mêmes en cohabitant avec les ennemis de la paix. C'est ce que dit le commandement de la force navale de FARDC dans un communiqué publié samedi à Kasseni. Il dit avoir constaté une complicité entre certains habitants de ces deux entités et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga, ce qui, selon lui, met en péril les efforts de paix dans cette région. Martial Kiza Biamungo.
Dans ce communiqué de samedi, l'état-major de la force navale basée à Kasseni au bord du lac Albert souligne que des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga sont parfois hébergés dans les hôtels et maisons de certains habitants sans que ces derniers ne les dénoncent auprès des forces de défense et de sécurité. Les commandants de la force navale dénoncent cette complicité qui, selon lui, ne facilite pas le travail des services de sécurité. Le colonel Daniel Ekofo Chico déclare que, je cite, « la population s'est fait tuer elle-même, elle cohabite avec l'ennemi, bien que ce soit des fils d'humiliés. Le silence du commandant ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. » Fin de citation. Dès ce lundi 15 septembre 2025, sont annoncées des opérations de fouilles systématiques des maisons et hôtels de la région. Objectif, traquer les miliciens de la CRP et leurs éventuels complices. Bounia Martial Kizabiamou.
Dans la ville de Beni, au Nord Kivu, la montée en flèche de l'insécurité dans le quartier Mambango de la commune de Bungulu a conduit à l'organisation dimanche d'un dialogue pour la paix et la sécurité dans la salle de la jeunesse de cette commune. Les recommandations issues de cette rencontre permettront aux décideurs ainsi qu'à la population de mieux collaborer pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la ville. Marc Marofimbo pour des précisions.
Organisé par la jeunesse en collaboration avec la société civile de la commune de Bungulu, ce dialogue avait pour objectif d'examiner la situation sécuritaire précaire dans le quartier Mambango. Ici, les nuits sont cauchemardesques. Les habitations de la population sont régulièrement visitées par des bandits armés. Selon le président de la jeunesse de Mambango, plus de 10 cas de vols armés, des dégâts matériels importants ainsi que des cas de violence physique ont été enregistrés depuis le début du mois de septembre. Puissance Vouiri, le président de la jeunesse de Mambango, appelle les jeunes à s'unir avec les services de sécurité.
Nous avons appelé tous les jeunes du quartier avec comme objectif la contribution de la jeunesse face à la sécurité de notre quartier. Nous avons juste réveillé la conscience de tous les jeunes et à la contribution et mais aussi à l'attachement, à la collaboration au service de sécurité. Moi, premièrement, je peux acquiser l'effectif minime des agents de la police qui est chargé de sécuriser la population et leurs biens. Nous appelons également toutes les autorités de nous venir en aide pour prendre certaines mesures à vue de barrer de sécurité qui nous dérange depuis plus de décennies dans notre quartier.
Les responsables de sécurité ont appelé la jeunesse et la population à collaborer étroitement avec les autorités et les services de sécurité pour mettre fin à l'insécurité dans les quartiers. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Restons dans le territoire de Beni. En plus bref, au moins 3 civils tués et une dizaine de maisons incendiées. C'est le bilan provisoire d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ZADF dans la localité de Mbau, à 20 km au nord de Beni. Une vive tension a régné ce matin dans la zone, tandis que l'armée patrouille dans les secteurs touchés. Sécurité toujours, le général-major Chico Chintambwe, commandant de la première zone de défense, est arrivé ce dimanche 14 septembre 2025 dans la ville de Kikwit, chef-lieu de la province du Kwilu, pour une visite de 4 jours. C'est dans le cadre de sa mission officielle de contrôle et d'inspection des troupes engagées sur le terrain dans la traque des insurgés Mobondo dans le cadre des opérations Ngemba menées dans le territoire de Kwamouth et la province du Maïndombe. Plus d'explications avec les chargés de communication de la 11e région militaire, le capitaine Anthony Mwarushai, dans cet extrait choisi par Vanessa Nkongolo Wankongolo.
Nous avons l'honneur de recevoir dans notre région militaire le commandant en première zone de défense, le général-major Chico Chintambwe, qui est en visite de travail, visite officielle. Et vous savez que c'est lui le patron de la première zone de défense. Donc il doit, comme il est perfectionniste, utiliser les 3 C de commandement, non seulement commander, mais aussi contrôler et corriger. Depuis sa nomination, c'est la première fois qu'il fait la visite dans notre région militaire en tant que région mère, c'est-à-dire la première. Il nous a fait l'honneur de commencer avec nous pour se rendre compte, n'est-ce pas, de l'évolution des opérations. N'oubliez pas que c'est dans cette zone où il y a les opérations militaires contre les rebelles Mobondo depuis plus de 3 ans que l'armée travaille. Mais quoi de plus normal qu'un haut cadre militaire puisse faire la visite dans cette zone pour se rendre compte de l'évolution de ces opérations. C'est ce qu'il faut pour appuyer à ces opérations pour qu'on termine une fois pour toutes avec la question de Mobondo.
Le général-major Chico Tshintambwe a assisté ce lundi à un briefing sur la situation sécuritaire dans l'ensemble de l'espace Grand Bandundu avant de visiter les chantiers militaires en phase terminale. Il poursuivra son périple dans la ville de Kenge, province du Kwango. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont annoncé le décès du général de brigade Daniel Mwakumburuku, commandant de la 33e région militaire. Il s'est éteint à l'hôpital général d'Uvira après avoir été victime d'un malaise alors qu'il exerçait ses fonctions. Dans un communiqué parvenu ce lundi à Radio Kapi, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, précise que l'officier supérieur a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est malheureusement décédé. La dépouille du défunt sera rapatriée à Kinshasa cette semaine pour des obsèques officielles selon les autorités militaires. Province de l'Équateur, les enseignants de Mbandaka ont décidé de reprendre les cours ce lundi après 2 semaines de grève. La décision a été annoncée samedi dernier au cours d'une assemblée générale de l'intersyndicale des enseignants. Plusieurs raisons ont été avancées pour permettre aux enseignants de reprendre la grève ce lundi. Entre autres, la réception pendant la semaine dans les comptes bancaires des enseignants de 50 000 francs congolais, le complément des salaires promis par le gouvernement central. Le président de l'intersyndicale de l'Équateur, François Mukadi Kachama, le confirme dans ses propos recueillis par Askin Zigua Tayoro.
À l'issue de l'Assemblée générale de ce samedi 13 septembre 2025, relative à l'évaluation de la grève déclenchée depuis le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue de la province de l'Équateur, jour de la rentrée scolaire 2025-2026, après débat et délibération, les enseignants décident à l'unanimité de suspendre la grève et de reprendre le chemin de l'école dès ce lundi 15 septembre 2025 et privilégie la mission de l'organisation d'identification des enseignants qui est fonction de l'augmentation salariale et paiement des NU et NP en s'alignant à la déclaration nationale de la camarade Cécile Chiombo Kankolongo, secrétaire général du CIECO.
Dans la province du Sankuru, avant d'aller plus loin, le trafic routier est suspendu depuis bientôt 2 semaines sur l'axe Lodja et Benadibele, long de 150 km sur la nationale numéro 7. Cela après l'effondrement du pont Yingela, situé à 6 km de Benadibele. Les conséquences se font déjà sentir sur le plan économique à Lodja avec la hausse de certains produits de première nécessité. Des explications avec Esther.
Les témoins affirment que le trafic routier reste interrompu sur la RN7 au niveau du pont Yengela. Un camion transportant des marchandises en provenance de Benadibele vers Lodja a été coincé pendant quelques jours lors de la traversée du pont. L'office des routes est intervenu pour le retirer. La même source précise que le passage est devenu difficile sur ce pont et par conséquent plusieurs produits manufacturés augmentent de prix chaque jour à Lodja. Explication d'un revendeur de carburant.
On était en train de prendre 1 litre de carburant à 3500, 3000, mais actuellement à jusqu'à 11000. On ne sait même pas où commencer. Toutes les activités sont bloquées. Nous cherchons l'implication du gouvernement central, tout comme le provincial.
Contacté, le directeur provincial de l'Office des routes signale que les éléments d'un nouveau pont matière sont déjà au port de Benadibele. Son service attend les moyens financiers pour le début des travaux de remplacement du pont vétuste. Signalons que le matériel de construction de l'aéroport de Lodja en provenance de Kinshasa passe également par le pont Yengela avant d'atteindre la destination. L'arrêt momentané des trafics risque de prolonger la durée des travaux. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Un rapport de l'ONG Human Rights Watch souligne une situation alarmante au Burkina Faso. Depuis mai 2025, deux groupes armés islamistes ont mené des attaques meurtrières dans le nord du pays, tuant plusieurs dizaines de civils. Ces attaques violent le droit international humanitaire et pourraient constituer des crimes de guerre selon l'organisation. Au Mali, les djihadistes de Nîmes ont attaqué dimanche 14 septembre un important convoi de camions-citernes en provenance du Sénégal et qui circulait en direction de Bamako sous escorte militaire. Une attaque similaire avait déjà eu lieu samedi. Plusieurs dizaines de ces engins ont été détruits et des militaires tués. Les Nîmes imposent un blocus dans la région de Kayes depuis le 3 septembre. L'armée affirme avoir vigoureusement réagi.
L'invité.
Notre invité est Yves Bassambi, vice-président du conseil communal de Saint-Josse en Belgique. Il s'exprime sur la commémoration le 8 septembre dernier du premier anniversaire de l'inauguration d'une stèle au cimetière Saint-Josse. Ce monument rend un vibrant hommage aux anciens combattants de la force publique du Congo, des soldats qui ont combattu aux côtés de la Belgique durant les deux guerres mondiales. Pour Yves Bassambi, cet événement est un moment clé de mémoire, de recueillement et de transmission. Yves Bassambi s'entretient avec Kéline Kouté.
Yves Bassambi, pourquoi est-il important pour la diaspora congolaise de Belgique de commémorer les anciens combattants de la force publique?
En fait, comme je l'ai souligné dans mon discours, il est essentiel de commémorer les anciens combattants de la force publique parce qu'ils incarnent le courage, le sens du devoir et le sacrifice pour des idéaux qui dépassaient leur propre existence. En fait, il faut se rappeler que ces anciens combattants étaient des hommes simples qui ont été arrachés à leur terre pour combattre dans une guerre qui n'était pas la leur, mais qu'ils ont accompli avec un sens du devoir, de l'honneur et du sacrifice. Leur mémoire pour les générations futures est une source d'inspiration et surtout un rappel que la dignité et la paix se construisent au prix de grands sacrifices. Pour notre diaspora congolaise, honorer ces combattants, c'est non seulement maintenir vivante une page de notre histoire commune avec la Belgique, c'est une réalité, mais aussi transmettre à nos enfants, aux générations futures, un héritage de résilience et de valeurs universelles.
Comment la jeunesse peut-elle s'approprier les valeurs d'humanisme et de paix portées par cet événement et quel est le rôle de la commune de Saint-Josse dans cette transmission?
La jeunesse peut s'approprier ces valeurs en s'inspirant du courage et du sens du devoir de ses anciens combattants. Non pas en prenant les armes, qu'on s'entende bien, mais en s'engageant pour la paix, la solidarité et la justice dans leur vie au quotidien. Les valeurs prônées à travers le sacrifice de nos anciens combattants doivent devenir un moteur pour refuser justement la violence et défendre l'humanisme sans concession. La commune de Saint-Josse, à son niveau modeste mais quand même important, a un rôle clé. Elle est un espace de mémoire et de transmission. Et à ce titre, je remercie la démarche initiée par son bourgmestre, Léjuine, la conseillère communale flamande, et moi-même votre serviteur, parce que à travers des commémorations, des initiatives pédagogiques et des projets citoyens, la commune permet justement aux jeunes de comprendre que la paix ne se maintient que par l'engagement. Il n'y a pas de secret. La volonté également et la justice, comme je l'ai souligné dans mon discours. Ainsi, elle contribue à former une jeunesse consciente, porteuse d'un message de fraternité et de paix.
Comment, en tant que représentant politique en Belgique, comptez-vous utiliser cette commémoration pour sensibiliser les autorités belges et européennes aux défis sécuritaires actuels en RDC et quel message souhaitez-vous leur adresser?
Vous savez, cette commémoration a été un moment fort qui me permet de rappeler aux autorités belges et européennes que l'histoire crée des responsabilités. Tout comme la Belgique et le Congo ont partagé le sacrifice des anciens combattants, elles partagent aujourd'hui un devoir de solidarité face aux violences qui ravagent l'Est du Congo. Mon rôle est de transformer ce devoir de mémoire en un devoir d'action politique. Juste pour vous rappeler une chose, il y a un proverbe en Afrique qui dit « quand les racines d'un arbre commencent à pourrir, il ne faut pas attendre qu'il tombe pour agir ». En fait, face à cette tragédie de l'Est, nous à Saint-Josse avons refusé de rester silencieux. Car le silence pour nous est une forme de complicité. Il était urgent de se mobiliser, d'alerter l'opinion publique et de soutenir le victime. À cet effet, le 27 mars 2024, une motion à l'initiative du bourgmestre de Léjuine, de la conseillère communale flamande et portée par votre serviteur, a été adoptée à l'unanimité au conseil communal de Saint-Josse et qui rappelait trois choses fondamentales. Premièrement, la défense des droits humains. Deuxièmement, le soutien aux populations oubliées. Et troisièmement, le refus de l'impunité. Dès lors, je souhaite dire aux autorités que la paix en RDC n'est pas une question lointaine. Je le répète encore, la paix en RDC n'est pas une question lointaine. C'est une exigence de justice internationale, car il ne peut y avoir de paix sans justice. Et l'Europe, aux côtés de la Belgique, doit agir avec courage et cohérence.
Merci.
Je vous remercie pour toutes vos questions.
C'était notre invité Yves Bassambi. Il s'entretenait avec Kéline Kouté. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal Parlé, qui a connu la coordination éditoriale d'Élisée Chikota Chivueta et la supervision d'Alain Irung Mouchinge. Pierre Diassinoa l'a mise en onde. Vous pouvez encore retrouver ce journal sur toutes nos plateformes digitales ainsi que dans notre site internet www.radiocapi.net.